Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à cette conférence sur les merveilles de la science-fiction. Nous avons beaucoup de chance puisque pour en parler, nous avons trois invités de très grande qualité. À ma droite, l'un des grands spécialistes français des littératures de l'imaginaire. Il en publie et il en écrit depuis 25 ans, monsieur Gilles Dumay de chez Albin Michel Imaginaire.
Bonjour.
À ses côtés, on a un amoureux fou de science-fiction. Il a fondé les éditions Aux Forges de Vulcain, monsieur David Meulemans.
Bonjour.
Et un auteur qu'on ne présente plus parce qu'il a laissé sa marque dans l'imaginaire.
À force de plus me présenter, plus personne ne me connaît.
Hein. Ah bah voilà.
Si vous pouvez me présenter un peu.
Plus de 50 romans à son actif, parmi lesquels Les Guerriers du Silence, Le Cycle de Wang ou encore La Fraternité du Panka, monsieur Pierre Bordage. Et moi, je suis fan de la Vallée, je suis la rédactrice en chef du Point Pop. Alors, je ne suis pas sûre que tout le monde dans cette salle sache que c'est que le Point Pop. Non, bah, effectivement. Eh bien, le Point Pop, c'est le label du Point qui est consacré à la pop culture et qui va traiter un peu de tous les sujets qui nous passionnent et qui donc fait ce genre de hors-série sur la science-fiction. Pour ce hors-série, on a dû sélectionner 12 chefs-d'œuvre de la science-fiction, 12 livres qu'il faut absolument lire et relire. Mais justement, Pierre, j'ai une question pour vous. Pourquoi faut-il lire de la science-fiction ?
Pour passer le temps ? Non, je sens que ce n'est pas la bonne réponse. Pourquoi faut lire de la science-fiction ? Ben, pour trois raisons, à mon avis. Premièrement, parce que ça offre de nouveaux voyages extraordinaires, c'est des voyages inconnus. Le saut dans l'espace-temps permettant d'explorer des choses nouvelles, soit sur Terre, soit dans l'espace. Donc, c'est un effet divertissant qui est très, très important. Enfin, moi, je tiens beaucoup au côté divertissant de la science-fiction. Hein. C'est-à-dire qu'on doit prendre du plaisir à en lire, déjà, premièrement. Deuxièmement, ce côté saut dans l'espace-temps permet une réflexion sur le présent. Donc, c'est un espace de réflexion que, malheureusement, nos sociétés ne prennent plus le temps d'avoir, puisque régi par des impératifs économiques à court terme, ce sont les auteurs de science-fiction qui souvent s'installent dans des interstices pour pouvoir proposer des pistes de réflexion à leurs contemporains. L'effet loop proposé par l'espace-temps, le saut dans l'espace-temps, permet de mieux distinguer ce qui est en germe dans notre présent et vers où vont nos sociétés. Troisièmement, c'est aussi un point très important pour moi, j'ai l'impression que la science-fiction reprend à l'aune des découvertes scientifiques récentes les interrogations philosophiques qui traversent l'humanité depuis la nuit des temps, l'immortalité, la relation à l'environnement, etc. Et qu'on est dans ce sillon-là créé par les premiers penseurs de l'humanité et qu'on reprend à notre façon ce flambeau-là de l'interrogation fondamentale sur l'humanité. Donc ces trois intérêts qui rendent la science-fiction indispensable, je pense, de nos jours. Et d'autant plus indispensable que notre société va de plus en plus vite.
Je crois qu'il a un peu tout dit, non ? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Alors, on ne peut que reformuler en moins bien ce qu'a dit Pierre Bordage, mais juste pour... parce que quand même, reformulation est possible. C'est vrai que quand on discute avec des lecteurs, souvent les lecteurs ont deux exigences qui sont contradictoires. Je veux être distrait, mais je veux de la substance. Et en fait, je me rends compte que souvent, dans d'autres secteurs de la production littéraire, notamment la littérature générale, on a du mal à équilibrer ces deux aspirations. Et souvent, la science-fiction arrive encore à répondre à ces deux aspirations. Une dimension de divertissement, une dimension, effectivement, de commentaire du réel, de prescription du réel, qu'on a du mal à continuer à lier en littérature générale.
Alors pour faire ce hors-série, on a dû choisir 12 livres, ce qui est un petit peu compliqué, on s'est beaucoup disputé. Vous, Gilles, en tant qu'éditeur de SF, si on vous demande quel est le plus grand roman de science-fiction de tous les temps, vous allez m'envoyer promener.
Non, pas forcément. Juste avant de répondre à la question, pour rebondir sur ce qui a été dit, il y a un problème avec la science-fiction qui est à la fois un problème et qui est peut-être la chose qui me plaît le plus dans le genre, c'est que la science-fiction, c'est à la fois des nouvelles extrêmement pointues de Greg Egan sur l'intelligence artificielle, sur la réincarnation de l'esprit humain dans les machines, etc., etc. Et à côté de ça, ça peut être Star Wars, Perry Rodan, des aventures spatiales débridées sur des planètes où il existe des humains alors que c'est pas possible d'un point de vue statistique, etc. Donc c'est une culture. Moi, je pense pas que c'est une littérature. Je pense que c'est vraiment une culture qui va de la série Z la plus absolue jusqu'à des chefs-d'œuvre de la littérature incontournable comme 1984 de George Orwell ou d'autres livres. Donc c'est, il faudrait presque trouver, pour parler d'un chef de la science-fiction, quelque chose, un livre où il y aurait à la fois cet aspect divertissant et à la fois l'aspect philosophique. Et j'en trouve un. Je trouve un livre qui mélange ces deux choses de façon vertigineuse, c'est Dune de Frank Herbert. Je trouve que Dune de Frank Herbert, c'est à la fois un livre extrêmement dépaysant, extrêmement divertissant. Et c'est aussi un livre choquant, c'est aussi un livre qui fait réfléchir, c'est aussi un livre sur le surhomme, c'est aussi un livre avec de la philosophie, de la religion, avec de l'écologie, c'est une espèce de livre total. Et je pense que la science-fiction, en tant que culture, elle doit être très fière d'avoir produit des choses comme Blade Runner au cinéma, comme Dune. Mais c'est vrai que 12, c'est incroyable, parce que quand on regarde l'histoire des science-fiction, déjà le genre naît avec Mary Shelley et Frankenstein. Donc le genre naît avec une femme auteur, c'est extraordinaire, en 1818. Et donc elle invente une des figures centrales de la science-fiction, qui est le savant fou. Et elle fait vraiment naître la science-fiction en 1818. Le mot n'existe pas, il n'existera pas avant 1930, 1940. Et après, on a G. Wells, qui, rien qu'à G. Wells, vous regardez, il invente l'invasion extraterrestre, l'homme invisible, les trucs génétiques, le docteur Moreau, etc. Puis après, il y a Jules Verne, et là, je suis déjà à 10 livres. Et après, on va rajouter Le Talon de Fer de Jack London, et on va rajouter Lovecraft, et on va rajouter donc 12, 100, c'est presque 1000, en fait. Mais bon, voilà, si je devais en retenir qu'un, parce que je l'ai lu et relu, et parce que chaque fois, c'est un énorme coup de poing, à la fois dans le ventre et dans le cerveau, ce serait Dune de Frank Herbert.
Et vous, David ?
Ah ben là, moi j'ai plus rien à dire, c'est Dune en fait. C'est donc Dune, c'est... Dune, non Dune. Et puis on en parlait tout à l'heure. Moi j'ai une tendresse particulière pour les dépossédés d'Ursula Le Guin. Mais je pense que aussi on est parfois un peu marqué par le livre qui nous a montré tout ce que la science-fiction pouvait faire en fait. Et voilà. Mais s'il faut prendre un point de vue plus moins affectif, je dirais que Dune effectivement c'est quasiment le livre parfait.
Et Pierre, vous signez dans ce hors-série le chapitre qui est dédié à Hyperion. On est dans la salle Hyperion. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce roman et pourquoi mérite-t-il le titre de chef-d'œuvre ?
D'abord, mon livre préféré, c'est Dune. Pour être très original. alors, Hyperion, je l'ai lu plus tard que Dune. En fait, aussi, c'est la séquence, enfin le temps de lecture qui a fait que Dune est mon coup de cœur parce que j'ai découvert la science-fiction par les auteurs de l'âge d'or de la science-fiction américaine. Puis Dune est arrivé juste après. Et là, vraiment aussi, j'ai eu un coup de poing, comme Gilles le disait, en lisant Dune. Et Hyperion, je l'ai lu beaucoup plus tard. Alors, Hyperion, pour moi, c'est le livre qui reprend à peu près toutes les thématiques de la science-fiction, qui les globalise, qui les étudie dans un space opéra gigantesque, ambitieux, qui brasse tous les thèmes qu'on connaît de la science-fiction. Et j'ai l'impression que... comment il s'appelle l'auteur du jeu ?
Dan Simmons,
merci. J'avais un trou. Dan Simmons essaie de faire une sorte de bouquin ultime de la science-fiction, une sorte de chef-d'œuvre indépassable au-delà duquel il sera difficile d'écrire quelque chose. C'est peut-être l'aspect qui me gêne un peu dans le livre par rapport à Dune, qui comporte aussi ses faiblesses, mais qui est très humain, alors que Hyperion est atteint le stade de perfection glacée qui suscite l'admiration, mais peut bloquer sur le seuil de l'admiration. J'ai admiré vraiment Hyperion. Et j'y ai trouvé aussi des traces d'humanité dans quelques personnages et dans la façon d'amener les personnages, la façon dont les personnages racontent leur histoire. Et Pourquoi Hyperion ? Ben, parce que d'abord, le space opéra est un genre que je chéris, que j'adore par-dessus tout, parce qu'il est... Il est à la fois extrêmement alors, divertissant des paysans et tout ce qu'on veut. Ce sont d'abord des voyages fabuleux qui permettent plein de choses. Et je trouve que Dan Simmons a fait de ce cycle-là un vrai chef-d'œuvre du genre.
Rien à ajouter ?
Peut-être que Hyperion a... Il y a quelque chose qui... Alors, c'est moi une lecture qui m'a beaucoup marqué. Peut-être qu'Hyperion, par rapport à Dune, a une autre caractéristique, c'est qu'il y a une dimension méta qui est revendiquée, qui est intégrée, puisqu'il y a toute cette réflexion sur Keats, donc un poète britannique de la seconde génération des poètes britanniques, alors que Dune, il y a une forme de générosité classique dans la narration, dans l'ambition, il y a un souffle. Hyperion, il y a aussi du souffle, mais il y a derrière une sorte de projet intellectuel de s'inscrire dans la littérature, par ses références, très facile à comprendre pour des anglo-saxons. Peut-être Keats est moins lu par nous, mais ça donne quelque chose d'à la fois plus complet et effectivement... très réfléchi par moment, ce qui fait que c'est une expérience de lecture un peu différente qu'on peut avoir d'Hyperion.
J'aime beaucoup Hyperion, mais j'ai toujours eu un problème avec ce livre. Je trouve que Dan Simmons est trop conscient de faire un livre de science-fiction sur la science-fiction. Et je trouve qu'il est trop conscient de prendre 5, 6 ou 7 tropes de la science-fiction et de les comment dire, globalement c'est des novellas Hyperion, c'est des morceaux de romans qui s'ajoutent et qui font une histoire ensemble, et chaque morceau de roman est une démonstration technique et technique d'écriture, de technique de d'analyse de ce qu'est la science-fiction. On retrouve du James Blish, on retrouve des tas de choses classiques là-dedans, et évidemment Dan Simmons pousse le curseur plus loin parce que c'est quelqu'un qui est visiblement très très intelligent, proche probablement du génie, mais je le trouve aussi assez peu fort sur l'émotion humaine. Je trouve que c'est un écrivain qui a assez peu d'empathie, et ça me gêne un peu parfois. Peut-être pas dans Hyperion, c'est peut-être le livre où ça me gêne le moins, mais c'est le livre de quelqu'un qui a conscience de faire un chef-d'œuvre. C'est toujours un peu étrange.
Dans la science-fiction, de façon générale, il y a un peu deux écoles. Vous parliez tout à l'heure de H.G. Wells et de Jules Verne. Finalement, on a une science-fiction qui va être plus rigoureuse scientifiquement, qui va être un peu plus froide, et une autre qui va être dans l'aventure, presque le merveilleux. Comment justement, si on devait comparer Jules Verne et H.G. Wells, qui sont un petit peu les pères fondateurs du genre, après Mary Shelley, comment vous les compareriez, Gilles ?
Ouais, c'est difficile. Je pense qu'ils sont difficiles à comparer parce que déjà, il y a chez... D'abord, Jules Verne, je ne pense pas que ce soit vraiment un écrivain de science-fiction. C'est un écrivain qui a fait de la science-fiction. C'est pas pareil, quoi. Par contre, H.G. Wells, c'est vraiment c'est l'écrivain qui a créé la science-fiction. Quand vous regardez tous les thèmes qu'il a abordés sur ses livres, c'est incroyable. Il a quasiment inventé tous les thèmes majeurs de la science-fiction, même actuels, hein, l'invasion extraterrestre, etc. etc. Donc Jules Verne, on sent plus un écrivain qui est fasciné par l'ingénierie, qui est fasciné par les technologies de son époque, qui les extrapole, etc. etc. Mais je sens plus une littérature d'ingénieur. Alors que chez Wells, il y a une dimension politique qui est évidente. Wells, c'est un humaniste, c'est un libre penseur, c'est quelqu'un qui a des idées révolutionnaires sur la place de la femme dans la société à son époque, etc. etc. Ça, je le trouve pas. Je suis pas chez Verne, mais chez Verne, on trouve d'autres choses, sont formidables, les voyages extraordinaires. Moi, quand j'étais enfant, je lisais 20 milieux sous les mers. C'est vraiment, je trouvais ça génial. Je relisais 2 ans de vacances, c'est pareil, qui est pas du tout SF, mais qui est aussi un Jules Verne. Voilà, après, opposer les rigoristes et les humanistes, etc. Moi, la science-fiction, pour moi, il n'y a pas deux écoles. Hein, c'est un univers. Et il y a autant d'écoles que d'étoiles. Quoi.
Deux autres figures qu'on compare beaucoup dans la science-fiction à cause de leur vision un peu cauchemardesque, pardon, de la société, c'est 1984 et Le meilleur des mondes d'Huxley. Pierre, vous avez une préférence entre ces deux monstres sacrés de la science-fiction ?
Non, les deux sont des incontournables, sont des récits fondateurs. Les deux sont des dystopies. L'un présenté sous forme d'utopie et l'autre sous forme de totalitarisme. Ces deux totalitarismes d'ailleurs. Non, j'ai pris. Enfin, ce sont des classiques maintenant. Je les ai découverts aussi assez tard à l'université, en même temps que le cours de littérature comparée consacré à la science de fiction de l'âge d'or américaine. Ce sont vraiment des livres très importants pour le genre science-fiction, mais ça vaut de la science-fiction parce qu'il y a plein de gens qui disent « moi, je dis jamais de science-fiction ». Ah oui, j'ai lu 1984 et j'ai lu Le meilleur des mondes, mais ce sont des classiques, ce n'est pas de la science-fiction, c'est comme Chronique martienne aussi, fait partie de ces romans qui apparemment ont sauté, ont été récupérés par le genre littéraire, mais évidemment, ce sont vraiment des récits fondateurs, très importants, à lire et à relire en permanence, pour s'imprégner, et en plus, ce sont deux livres annonciateurs de ce qui se passe maintenant, parce que Huxley avec Le meilleur des mondes, mais évidemment la biotechnologie nous amène au seuil de ce que peut être une humanité augmentée, une humanité définie par ses gènes, et puis la surveillance globale décrite par 1984, même si ça ne se passe tout à fait de la même façon, parce qu'elle est plus calquée sur le mode soviétique de la surveillance centrale du grand ordinateur qui surveille tout. Elle est maintenant, elle s'est diffusée dans nos poches. La surveillance globale, elle est partout. Et non seulement elle est partout, mais nous faisons en sorte qu'elle soit partout parce que c'est nous qui la véhiculons maintenant. C'est très fort. Le système capitaliste, c'était vraiment très très fort finalement. on a tous des téléphones portables dans les poches, on a tous des cartes bancaires, on a tous des GPS dans les voitures, on réclame de plus en plus de caméras dans les rues pour notre sécurité. Ce qui fait que la surveillance globale, c'est nous qui l'installons. Mais la question a été posée par J. Wells en 1948. Ce sont des livres précurseurs très importants et qui montrent l'intérêt de la science-fiction dont on parlait tout à l'heure.
Vous le disiez justement, il y a beaucoup de gens qui disent ne pas aimer lire de la science-fiction, voire détester ça. On a tous des amis, des gens de la famille à qui on aimerait montrer qu'ils se trompent, qu'il faut s'y mettre.
C'est un sacré boulot ça.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller justement à quelqu'un qui dit détester la science-fiction et quel bouquin on peut lui donner dans les mains pour le faire changer d'avis ?
Il y a tout un tas de livres qu'on peut donner. C'est simplement un a priori. Parfois, je suis dans des salons de littérature générale et puis je suis entre deux auteurs de littérature dite blanche, donc avec couverture Gallimard, Grasset, très sobre. Et puis nous, les couleurs hurlantes. Et les gens, ils font un détour. Ils passent devant mon stand.
C'est radioactif.
Ouais, un truc instinctif, comme si les livres étaient radioactifs. D'ailleurs, ils sont radioactifs, hein, vous n'êtes pas au courant, mais... Et puis je dis, mais parfois j'interpelle les gens, je dis, ça ne vous intéresse pas ou, non, ah non, moi je n'ai jamais de science-fiction, ça me fait peur. Ah oui, pourquoi vous en avez lu ? Non. Donc comment vous savez que vous avez peur si vous n'avez pas encore lu ? Ben, voilà, donc il y a toute espèce d'a priori fantasmé sur la science-fiction. Et j'ai eu une expérience aussi intéressante, c'est que j'ai fait un livre qui s'appelle Porteur d'âme, où il y a un petit aspect scientifique très très léger. Où on transfère l'âme dans le corps de... Enfin, c'est pas si léger que ça, finalement. On transfère l'âme dans le corps de quelqu'un d'autre. Et ça a été... ça fait partie d'un prix qui s'appelle le prix Cézanne, qui était destiné aux comités d'entreprise. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de gens des comités d'entreprise. Et ils me disent... Non, la science-fiction, ça nous fait peur et tout. Et puis, à bout d'un moment, on me dit... Ah ben, on a lu votre livre, on a adoré, finalement. On se rend compte que c'est vachement bien et tout. Et voilà, c'est a priori-là, il faut simplement que les gens rentrent dans un livre quelconque. Moi, je leur conseille volontiers La stratégie Ender, c'est quand même facile d'abord, ou de ce genre de livre. Les Chroniques martiennes de Bradbury, c'est quand même facile, etc. Et ça ne fait pas peur spécialement. Et quand les gens ont accepté de franchir le pas, ils se rendent compte qu'ils étaient dans l'erreur eux-mêmes, ils étaient dans un fantasme qui ne correspondait à rien du tout. Il faut juste essayer de les convaincre d'ouvrir un livre de science-fiction. Peut-être pas commencer tout de suite par Greg Egan, parce que bon, ça demande quand même quelques codes assez costauds, mais des livres grand public, il en existe plein, qui sont de qualité, et que les gens, quand ils rentrent dedans, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent très bien, et que la science-fiction est un genre dans lequel on peut très bien rentrer, même si on n'en a pas l'habitude.
Oui, et puis il faut qu'on garde Greg et Anne pour nous.
Hein. Justement, la stratégie Ender est un des bouquins effectivement les plus accessibles. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la science-fiction, mais qui aiment la stratégie Ender. David, à votre avis, qu'est-ce qui a fait que ce roman a un peu su dépasser les frontières qu'on met parfois devant la science-fiction ?
Alors, la stratégie Ender, rétrospectivement, quand même, on peut se rendre compte que Harry Potter et la stratégie Ender ont des points communs, parce que le coup des gamins qui se retrouvent dans une école, qui ont un code couleur, qui sont par équipe, des choses comme ça, c'est un fonctionnement narratif qui reprend des codes de la littérature jeunesse, qui est un point d'entrée quand même assez sympathique. Et finalement, ça prend le pas à un moment sur, même si chaque page, on dit dans la stratégie Ender, attention, les extraterrestres, ils arrivent, ils vont nous tuer, et tout est tendu vers un affrontement final avec eux. En fait, ce qui fait tourner la page, c'est l'écolier qui est en conflit avec les autres écoliers, puis finalement il se crée des copains, puis finalement même les gamins méchants, ils sont gentils mais ils ne le savaient pas, et voilà. Et ça, c'est des mécanismes narratifs qui sont des mécanismes qu'on trouve dans toutes sortes de... voilà. Alors après, là c'est peut-être Gilles qui pourra répondre. Moi, la stratégie Ender, j'ai l'impression que ça a bien pris aux États-Unis, mais je ne savais pas que ça avait été un tel succès en France. Je ne sais pas si c'est l'histoire de la je ne connais pas très très bien l'histoire de la réception de la stratégie Ender en France. Mais
non, j'ai pas l'impression que ce soit un succès à la hauteur de 1984 ou des livres dont on parlait tout à l'heure. Mais pour revenir à faire lire la science-fiction aux gens nombreux qui nous disent qu'ils aiment pas ça, c'est comme tout. Je pense que c'est comme toute entreprise humaine, il y a quand même un dialogue à instaurer avant de choisir un titre. Moi, ça m'arrive souvent parce que j'interviens au niveau des libraires ou des bibliothécaires, et donc je discute avec ces gens et j'essaye de cerner ce qui les intéresserait ou ce qui les intéresse potentiellement dans la littérature. Et j'ai une espèce de stratégie d'évitement, c'est la plupart du temps, je leur propose des livres qui, a priori, ne sont pas très agressifs sur le plan des idées, des choses comme Ripley de Ken Grimwood,
c'est bien, ça, ouais.
Ou Cristal qui songe de Theodore Sturgeon, qui est un classique. Il y a des classiques, on parlait de Ray Bradbury avec les chroniques martiennes. Moi, personnellement, je préfère La foire des ténèbres sur le cirque et sur le monde des forains aux États-Unis. Il y a un auteur que j'ai beaucoup publié qui s'appelle Robert Charles Wilson, qui est un auteur canadien que je trouve assez abordable, voire sur certains livres très abordable parce que d'abord, c'est pas un scientifique, donc sa science, elle est très éthérée, entre guillemets, ça sert juste d'hypothèse départ, et c'est assez rare qu'il développe ça. Donc on n'est pas dans le jargon, on est plutôt dans l'idée. Et après, il y a des auteurs que j'évite, c'est-à-dire je ne conseille pas aux lecteurs qui voudraient débuter avec Philip K. Dick, par exemple, parce que Philip K. Dick, je pense que c'est très bien, c'est pas le problème, mais si vraiment on veut dégoûter les gens de la science-fiction qu'on n'a jamais lu, Philip K. Dick, c'est parfait, ils vont ouvrir je sais pas, Tremblement de temps sur Mars, quelque chose, et ils vont jamais revenir. Donc c'est essayer de trouver peut-être des livres où les interactions humaines, ou l'humain avec l'extraterrestre, ou l'humain avec le passé, ou l'humain avec la mémoire, ou un livre comme...
Il y a Des fleurs pour Algernon.
Voilà, c'est un très bon exemple, Des fleurs pour Algernon. D'ailleurs, c'est un livre de science-fiction, entre guillemets, parce que ça parle de science, mais globalement, c'est aussi un livre de littérature tout court. Et c'est un très beau livre. Donc on peut faire une liste quasiment magique de livres, Greenwood, Ripley, Des fleurs pour Algernon, de livres qui ne sont pas très très agressifs. C'est marrant, mais je ne mettrais pas Ender là-dedans. Enfin, personnellement, voilà, ce n'est pas le livre qui me viendrait à l'esprit tout de suite. D'abord parce que aussi ça parle de guerre, etc. Et puis, il y a des livres très étranges, français, super bien écrits, comme Malléville, comme La forêt discorde, qui peuvent séduire des gens qui aiment la littérature très écrite, ou Jacques Abeille avec les jardins statuaires, etc. Donc, dès qu'on instaure un dialogue avec le lecteur et qu'on arrive à cerner ce qui l'intéresse dans la littérature, on trouve quasiment toujours une porte, un livre. Ah ben, vous devriez essayer ça. Alors, peut-être que c'est un livre qui est un peu à la marge de science-fiction. Peut-être que c'est pas un livre qui est en plein dedans. Mais voilà, ben, c'est un moyen de passer par une porte dérobée et de contaminer un peu les gens. Voilà.
Mais c'est vrai que là, en fait, on formule les choses d'un point de vue esthétique et intellectuel, ce qui est effectivement le principal. Mais après, il y a un aspect complètement secondaire, c'est que souvent, mais qui a son importance, c'est que les gens, souvent, ils découvrent les textes par leur matérialité, c'est-à-dire les livres. Les livres, ça a été dit tout à l'heure par Pierre Bordage, ils ont certains types de couvertures. Et en fait, les rayonnages en librairie, ça entraîne aussi une manière de faire leur travail de la part des éditeurs. Et c'est quelque chose qui évolue au cours du temps, qui fait que ça a aussi un impact sur la réception, c'est-à-dire des auteurs qui, parce que c'était Robert Merle, a été classé en littérature générale, c'est relativement facile de faire lire un texte de science-fiction de Robert Merle. Voilà, ou par exemple, quand une stratégie, effectivement, c'est de dire aux gens, en fait, tel texte que vous avez lu, parce que c'est la littérature générale, en fait, c'est la littérature de science-fiction. C'est-à-dire que quand on dit au lycée, vous lisez 1984 parce qu'on vous fait faire les dystopies, en fait, 1984, c'est de la science-fiction. Et donc, il y a toute cette dimension-là. Mais par exemple, si on revient à la question du début sur l'origine de la science-fiction, il y a quand même un moment où on crée un régime très particulier. Pour moi, c'est Asimov. C'est-à-dire Asimov, c'est vraiment... là où il y a vraiment un moment de disjonction claire et nette qui est reproduit par le monde éditorial, parce que finalement 1984 quand c'est sorti c'était pas estampillé science-fiction, Aldous Huxley non plus, H.G. Wells non plus, mais ça a été dit par Gilles Dumay, pour Frankenstein, la question se pose même pas, c'est-à-dire il n'y a pas de disjonction de genre, ça n'existe pas les rayonnages à ce moment-là. Faut être conscient du fait qu'on place la discussion parfois uniquement sur des questions intellectuelles et artistiques, alors qu'il y a des choses très très pratiques qui font que, par exemple, un texte de Kafka qui paraîtrait aujourd'hui et on est dans une réalité alternative, Kafka n'existe pas, hop, il va en littérature de genre, en fait. Moi, je vous donne un exemple très simple. Il y a 2 ans, on sort un roman en littérature générale où il y a une dimension, le postulat de départ est un postulat imaginatif, et il y a une journaliste qui nous a dit « Moi, je ne peux pas lire parce que dès la première page, il y a un truc imaginaire et je ne peux pas. » Et elle avait fait quelque chose de très maladroit, elle avait répondu directement à l'auteur en disant « Cher, je ne vous dirai pas l'auteur, mais un violon dans la tête, ce n'est pas possible pour moi, bisous, bisous. » Et on s'était amusé à écrire des fausses lettres de réponse comme ça. « Cher Franz, un homme qui se transforme en insecte, pas possible pour moi, bisous, bisous. » quoi. Sauf que en fait, la légitimité qu'ont acquis des textes ou des choses comme ça fait que la question de science-fiction se pose moins pour eux. Par contre, pour revenir à ce que je disais, je pense que dès qu'on commence avec Asimov à voir vraiment ça fonctionne sur un truc, sur quelque chose d'assez différent à partir d'Asimov. C'est-à-dire, je pense qu'on rentre dans la science-fiction. Alors, Asimov, pour moi, c'est un auteur de SF qui est très lisible. C'est un auteur assez grand public, facile, un peu ludique, voilà. Mais à partir de ce moment-là, je pense qu'on crée quand même un régime de texte et l'édition y contribue, qui va scinder les choses. Et rendre, c'est-à-dire les éditeurs, parce que c'est plus facile, parce que c'est aussi des commerçants, les éditeurs, c'est surtout des commerçants, on segmente, parce que quand on segmente, c'est plus facile de vendre, et ben on crée aussi des murs dont on est prisonnier après.
Et justement, pardon, j'interromps.
Non, je n'arrive pas à te suivre sur Asimov, en fait. Je vais essayer d'être clair. J'arrive à suivre ton raisonnement, mais alors, là où moi il y a un point de divergence, c'est pas Asimov, c'est les pulps, c'est Lovecraft, c'est Robert E. Howard, c'est ces couvertures là, c'est Weird Tales, c'est le lendemain de la Grande Dépression américaine, c'est le lendemain de 1929, et c'est en fait ce genre qui naît avec un mot qui naît, science-fiction, science-fiction d'abord, et puis après science-fiction, et avec l'émergence d'une culture et pour moi, l'émergence de la culture science-fiction, c'est vraiment les pulps, et c'est vraiment ces auteurs des années 30, Lovecraft, Robert E. Howard, Clark Ashton Smith, et plein d'autres qui étaient autour de Lovecraft et autres. Alors, on n'est peut-être pas au niveau de la science-fiction, on est plus peut-être sur la fantasy, ou le weird, ou l'étrange, ou l'horreur. Mais moi, je considère Lovecraft comme un écrivain de science-fiction, à part 2-3 nouvelles qui sont fantastiques. Tout le reste de son corpus, c'est de la science-fiction, c'est des dieux extraterrestres qui sont installés sur Terre, c'est des extraterrestres, c'est des entités qui viennent d'autres planètes, c'est du vertige cosmique, c'est des dimensions parallèles et autres. Et pour moi, le point de divergence, mais même aujourd'hui, hein, là où il y a un monde entre la science-fiction et la littérature, ce sont les couvertures, ce sont la façon dont on commercialise ces textes et dont on commercialise ces livres. Et ça, c'est la réflexion permanente de mon métier, de tous les jours, depuis que j'étais chez De Noël et maintenant que je suis chez Albin Michel. C'est ce livre-là, quand arrive un livre d'un auteur, d'abord, est-ce qu'il est pour moi ? S'il est bon, est-ce qu'il est pour moi ? Est-ce que je vais le commercialiser en science-fiction ou est-ce qu'on va le commercialiser en littérature ? Et ça a l'air idiot, hein, mais vous voyez, en France, il y a une espèce d'histoire de la commercialisation des livres bizarres avec Dantec, avec Houellebecq. On voit que ces auteurs-là qui sont devenus des marques, dès qu'un auteur devient une marque, donc on en revient au commerce, on le vend comme une marque. On vend Houellebecq, on vend Dantec, on ne vend plus un genre, on ne vend plus le genre auquel il se rapproche. Mais Les Racines du Mal, c'est un livre de science-fiction. Babylon Babies, c'est un livre de science-fiction. Mais ça devient un livre de Dantec. Ça ne devient plus. Ça quitte le champ de la science-fiction. Les lecteurs science-fiction l'achètent. D'autres lecteurs l'achètent parce que c'est un livre de Dantec. D'autres lecteurs l'achètent parce qu'ils ont entendu parler de Dantec. Houellebecq a écrit La possibilité d'une île, que personnellement je trouve un très bon livre, à deux, trois trucs. Il aurait pu oublier, mais c'est un vrai livre de science-fiction. Et ainsi de suite. Mais bon, c'est vendu comme du Houellebecq en littérature, etc., etc. Donc la question, alors moi je l'ai résolue. Moi je fais de l'imaginaire pour lecteurs d'imaginaire avec des couvertures d'imaginaire. Je veux qu'il y ait des monstres, je veux qu'il y ait des vaisseaux spatiaux, je veux qu'il y ait des dragons et tout. C'est ça mon métier, c'est le cœur de ce que je fais. J'assume de faire l'imaginaire. Mais la question, pour chaque texte, elle se pose en France et elle se pose probablement aussi aux États-Unis, puisqu'on voit qu'encore Mac McCarthy fait La Route. C'est vendu comme un roman de littérature, même si c'est un post-apo. C'est pas vendu comme un roman post-apo. Il a le Pulitzer, et ainsi de suite. Et ce débat, il est non tranchable. C'est-à-dire que on peut pas décider aujourd'hui que tous les livres de science-fiction écrits par des auteurs français seront publiés en science-fiction. Ce n'est pas vrai, parce que les auteurs sont des marques, des auteurs qui ne sont pas des marques. Et il y a des auteurs qui doivent sortir, comme Pierre Bordage, de leur marque, de leur univers, qui deviennent une marque. Et donc, on peut mettre un livre sans mettre science-fiction dessus, sans mettre une illustration de science-fiction dessus, mais avec juste marqué Pierre Bordage en haut et avec une illustration presque générique. Et il y a des auteurs, on ne peut pas, parce qu'ils ont besoin de la béquille qui va être une illustration de Manchu ou que va être un titre de pure SF, parce que c'est ça qui va faire que cet auteur-là, d'un seul coup, il va arriver dans une communauté qui existe, une communauté de lecteurs, que ces lecteurs vont s'intéresser à son livre, c'est parce qu'il est publié comme de la science-fiction, par un éditeur de science-fiction, avec une couverture de science-fiction, et il est vendu comme ça pour les gens qui en lisent.
Il n'y a pas très longtemps, Stéphane Marsan de chez Bragelonne signait une tribune où il disait, je cite, « La France a un problème avec l'imaginaire ». Est-ce que vous êtes d'accord, Pierre ? Quelle est la relation ?
Personnellement, je n'ai pas de problème avec l'imaginaire. alors, Gilles, je ne suis pas une marque. Hein. Pas encore, en tout cas.
Non, je ne suis pas d'accord. Tu es une marque. Enfin, on voit très bien quand... Alors là, ça, c'est le point de vue de l'éditeur qui parle avec des journalistes toute l'année, etc. etc. Aujourd'hui, Pierre Bordage, il a mais très clairement... dépasser le cadre de la science-fiction. Et d'ailleurs,
ça s'est fait par l'intérieur de la science-fiction.
Oui, tu es sorti de ton berceau comme l'humanité doit sortir de son berceau.
J'ai publié quelques livres de littérature dite générale, hein, Tout sur le zéro, Mort d'un clone et tout, et c'est passé totalement inaperçu. Pourquoi ? Parce que ce ne sont plus des couvertures du coup de science-fiction. Les libraires ne savent pas très bien me vendre, donc ils me rapatrient généralement dans les rayons science-fiction où les lecteurs de science-fiction ne cherchent pas du tout ce genre de choses. Et où je n'existe pas du tout aux yeux des auteurs de littérature générale. Donc, il y a encore. Bon, par ailleurs, moi, je suis aussi très content de faire partie du genre. Je me revendique aussi du genre. Je pense que ce genre qui est soi-disant dans les marges de la culture française, c'est dans les marges que probablement il y a les choses les plus fécondes qui se font. Vous savez, dans l'obscurité, dans l'humidité torride des marges. Et je pense que là, il y a une vraie créativité. Donc, moi, je suis content d'appartenir à ce milieu-là. Je n'hésite pas à dire que je fais de la science-fiction. J'essaie de conquérir le plus large. Alors, par rapport à certains auteurs dont tu parles, où il ne faut pas donner tout de suite à des lecteurs, évidemment, lambda, parce qu'il y a des codes quand même très, très importants à acquérir, j'essaie toujours de donner des passerelles aux gens. C'est-à-dire que moi, en tant qu'auteur, je me dis, si je réussis à attirer quelqu'un qui ne lit jamais de science-fiction Est-ce que j'ai le droit de le rater, cette personne? Est-ce que j'ai le droit de la décourager? Donc, j'essaie toujours de m'efforcer de donner un code, une passerelle d'accès aux nouveaux lecteurs, même si, par rapport au milieu de la science-fiction, ça paraît du coup non novateur, etc. Je m'en fous un peu. Je suis un auteur populaire, enfin, j'essaie d'être un auteur populaire, et donc je pense que c'est important d'accueillir chaque personne qui viendrait, par hasard ou pas, dans mes livres, et donc lui donner le maximum de chances d'y rester.
Mais une des façons dont la science-fiction a justement un peu dépassé ses frontières et a attiré le grand public, c'est à travers le cinéma. Ah oui. Puisque c'est un des genres justement dans lequel le cinéma puise le plus souvent, avec des très bons résultats et de très mauvais résultats. David, est-ce qu'il y a un film de science-fiction qui a réussi selon vous à faire honneur au matériel, ou au contraire qui a complètement abîmé?
Alors, c'est très difficile. Moi, j'aurais tendance. Moi, le film de science-fiction qui m'a le plus marqué enfant et qui, pour le coup, n'est pas une adaptation, c'est le Robocop de Verhoeven. Et ce qui est intéressant, alors, par comparaison, c'est intéressant parce qu'on parlait de Marc. Verhoeven, lui, quand il va aux États-Unis, donc il fait Robocop, Basic Instinct, Starship Troopers, en fait, il finit par être très lié au genre. Et on voit la notion de marque sur les auteurs. Au cinéma aussi, c'est un problème. Dans les dernières années, on parlait de Carpenter, comme le fait que Carpenter, bon, c'est parce que c'était Halloween il y a deux jours, je pense, Carpenter, en commençant à faire du genre, en fait, il s'est pas rendu compte, mais il a sabordé sa carrière. Alors, on trouve qu'il a fait des très bons films, mais il y a des entretiens récents avec lui où on a l'impression que le grand regret de sa vie, c'est d'avoir fait du genre, et alors que c'est le contemporain de Coppola, de ne pas avoir la reconnaissance qu'avait Coppola. Mais sur la question du cinéma, c'est que... moi, on m'a raconté une fois une anecdote, mais elle est peut-être complètement apocryphe. C'est l'équipe de Metal Hurlant qui sort de la projection de Star Wars. Et ils disent « c'en est fini de la science-fiction exigeante ». Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que il y a une mainstreamisation de la science-fiction via le cinéma qui commence, je ne sais pas exactement quand, parce que finalement, dans les années 50, le cinéma populaire avait déjà beaucoup de séries Z en SF. Hein. Peut-être que l'évolution plus récente, c'est de se dire qu'en série A, donc dans les films où on fait venir des stars, où il y a des gros budgets, la proportion de récits de genre est devenue beaucoup plus importante. Ça, c'est vrai. Après, je ne sais pas si vraiment ça permet de rabattre des gens sur la lecture. On nous dit ça aussi sur les séries télé, en disant les séries télé, c'est des formes narratives, et donc ça recrée une exigence sur la narration, et donc ça va faire revenir les gens sur le livre. Mais fondamentalement, les gens, ils ont une vie limitée en termes de temps. On a, voilà, et choisir de lire ou choisir d'aller au cinéma ou de regarder des séries, c'est des choses assez différentes. C'est des pratiques esthétiques différentes. Donc, je suis gros spectateur de films de SF, mais je sais pas si l'interaction est toujours si bénéfique que ça.
Alors, je vais faire une réponse qui... Je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que tu dis choses... Il y a deux choses qui sont intéressantes. D'abord, je pense qu'on ne compare pas les films et les livres, parce que sinon, là, les livres vont gagner par chaos très rapidement. Après, il y a l'effet des séries télé et l'effet du cinéma sur les livres, les ventes de livres. J'ai publié un certain nombre de livres qui ont été adaptés au cinéma en tant qu'éditeur. Le Prestige de Christopher Nolan, par exemple, est tiré d'un livre de Christopher Priest qui s'appelle Le Prestige. Premier Contact, le film que vous avez peut-être vu, est tiré d'une nouvelle de Ted Chiang qui s'appelle L'histoire de ta vie, qui était dans le recueil La Tour de Babylone. Chaque fois, il y a un effet positif sur les ventes du livre. Chaque fois. Donc, quelque part, chaque fois, il y a un effet positif sur cette culture en tant que littérature. Après, il est des fois énorme. On voit que Game of Thrones, quand même, c'est quelque chose qui, en fantasy, marchait un peu, et d'un seul coup, est devenu un phénomène énorme à cause d'une série télé. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, de l'éditeur de Game of Thrones en France qui me disait « Ouais, je vais arrêter parce que ça ne marche pas assez, et ça coûte tellement cher à traduire. » Et donc, voilà, il a continué, et il a eu bien raison de pas que ça parte ailleurs. Chez Albin Michel, nous, on a beaucoup de livres qui sont adaptés en série télé. notamment sur Netflix ou des réseaux comme ça, quand on voit les ventes de livres, c'est quand même hyperbolique. Ça part tout de suite très très haut, dans des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc, est-ce que ça amène des nouveaux lecteurs ou est-ce que ça focalise les lecteurs sur d'autres produits ? Ça, il faudrait des études de marché très très précises. Moi, j'ai quand même l'impression que pour Ted Chiang, qui est un auteur exigeant et qui est un auteur vraiment intéressant, c'est tout bénef pour lui en tant qu'écrivain qui a eu ce film, qu'on peut aimer ou pas aimer, mais qui a attiré l'attention sur son recueil nouvelle dans lequel il y a 6-7 autres histoires qui sont très bien, très intéressantes. Je pense que ça vaut toujours le coup. Et que après, analyser des films avec une grille d'analyse de la littérature, c'est sûr que quand vous regardez un livre, vous considérez qu'une page de livre, c'est une minute de film, donc un livre qui ferait 400 pages, ce serait un film qui ferait 400 minutes. C'est juste pas possible. Donc, ils sont obligés de tailler, trancher, recouper ou choisir qu'une seule idée du livre, comme ils ont fait dans le Prestige. Ça marche pas. Alors, la série télé, c'est un autre problème. Parce que, justement, la série télé, on peut tirer 400 minutes d'un livre. Alors, ça, c'est autre chose. C'est encore un autre truc, quoi. La narration en série télé, actuellement, elle est... moi, je suis un gros amateur. Je regarde beaucoup de séries télé. Notamment, comme tout le monde, je regarde Black Mirror, que je trouve vraiment très intéressant. Même pour quelqu'un qui lit beaucoup de science-fiction, c'est très intéressant de voir cette espèce de vulgarisation des idées de la science-fiction sur les réseaux sociaux, sur la technologie, etc., etc. Les séries télé, aujourd'hui, en termes de spectateurs, pour moi, c'est l'Eldorado comparé au cinéma. Le cinéma est devenu une énorme déception. Globalement, ce sont des machines à vendre du pop-corn et à vendre du Coca-Cola. Les séries télé, il y a encore des trucs qui laissent complètement pantelant par terre. Je me dis, mais c'est pas possible, comment ils font ça, quoi. Donc voilà, ça change, tout change, et je pense, je pense que c'est aussi une des grandes forces de cette culture, c'est d'être vraiment multimédia. Et là, on n'a pas parlé du jeu vidéo, mais il y a des chefs-d'œuvre en jeu vidéo, il y a des chefs-d'œuvre en bande dessinée. C'est une culture très vaste. Et alors moi, j'essaye pas de comparer les livres avec les bandes dessinées avec les films. Sinon, on s'en sort pas. Et de toute façon, c'est pas les mêmes médias, ça fonctionne pas comme ça. La même façon, c'est pas les mêmes narrations, c'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes œuvres. Voilà.
Alors moi, deux remarques très rapides pour rebondir sur ce que tu dis. Il y a deux autres petits phénomènes à étudier, c'est que les séries télé mettent un très gros accent sur le sens de la narration, l'art de raconter des histoires. Et maintenant, on reçoit beaucoup plus de manuscrits. Je parle des auteurs français qui nous écrivent ou des autrices françaises, où l'histoire est revenue au premier plan et la construction est meilleure. Le problème, et ça rejoint ce que tu dis, c'est un roman, c'est pas juste une histoire bien troussée. C'est bien quand c'est une histoire bien troussée, mais l'écriture, ça a des ressources expressives qui sont à part, qu'on oublie parfois. Et je me retrouve avec des manuscrits de non-lecteurs. Or, pour faire un bon auteur, faut aussi être un gros lecteur. C'est-à-dire, c'est des auteurs qui n'ont pour référence que les séries télé. Donc ça, c'est un aspect quasi négatif pour moi, même si on peut dire que c'est bien que grosso modo le niveau d'exigence sur la construction d'une histoire augmente chez les auteurs et chez les lecteurs. Et deuxième chose qui est indirecte, mais que j'ai vu ça chez quelques auteurs américains qu'on a eu, c'est que la littérature, souvent, ça nourrit pas son homme du côté des auteurs et des autrices, et donc il y a des auteurs qui partent vers la télé ou le cinéma parce que c'est rémunérateur. Moi, l'exemple que j'ai, c'est un auteur américain qu'on a, qui est Charles Yu. Charles Yu, il a été avocat à 17 ans. Il a écrit des tonnes de nouvelles. Il a gagné plein de prix. Il a un roman qui a marché coup-ci, coup-ça aux États-Unis, mais qui lui a ouvert les portes d'Hollywood. Puis, il est devenu scénariste sur Westworld, sur HBO. Et donc, il a pu arrêter d'être avocat. Mais alors, par contre, sa production littéraire, c'est pas sûr qu'elle continue très longtemps, parce que c'est clairement beaucoup plus intéressant pour lui, intellectuellement et financièrement, d'être à la télé. Et c'est vrai que j'ai la raison, autant le cinéma, il y a parfois des trucs exceptionnels, mais moi ça me fatigue. Autant les séries, parfois il y a encore, alors que pourtant, même en termes de contraintes économiques, on a l'impression que c'est encore plus lourd qu'au cinéma, ce qu'ils ont à subir dans la production des séries, mais c'est vrai que parfois on a encore des bonnes surprises côté séries.
On le voit même avec George Martin qui n'en finit pas d'écrire son dernier livre, puisqu'il est très pris par la production de la série à laquelle il participe beaucoup. Malheureusement, le temps file, donc avant de prendre les questions du public, on va peut-être parler un petit peu avec vous, Pierre, du futur de la science-fiction. Orson Scott Card, que j'ai interviewé, me disait récemment qu'il devient plus difficile de faire de la science-fiction originale parce que la science a globalement cessé de nous fournir du matériel. Vous partagez
pas
cette opinion ?
Tout.
Pas du tout.
Quand je discute avec des scientifiques ici, là, qu'on a des tables rondes sur différents sujets, Il y a toujours des moments où il y a un mystère qui reste, qui augmente même. C'est ce que disaient Klein et d'Espagna dans Regard sur la matière, en disant que plus on s'approche du réel, et plus celui-ci se voile. Et c'est dans ce voile, dans ce mystère, que nous, les auteurs, on peut s'installer, on peut faire de la poésie, on peut créer des aventures, et il n'y a pas de contradiction scientifique pour l'instant. De toute façon, ça ne me gêne pas qu'il y ait aussi un environnement scientifique de plus en plus présent. Ça ne me gêne absolument pas pour faire des romans, parce que les romans, ça s'adresse aux humains, ça parle d'humains, pour des humains, donc c'est ça qui est intéressant. La technologie, elle m'intéresse dans la mesure où elle influe sur la vie quotidienne, où elle change des paradigmes, et que c'est là-dessus que je vais m'installer. Et dans le roman, en plus, c'est une liberté totale. Je reprends par rapport à l'écriture de séries et de scénarios, où j'ai tâté un petit peu les deux. J'ai fait deux scénarios de films, où j'ai participé à deux scénarios de films, et puis j'étais approché aussi par les productions télé pour faire des choses. Et je suis parti en courant, parce que la liberté absolue, elle se trouve dans les romans. Dans les romans, on a totale liberté, l'effet spécial est gratuit. Et donc ça, c'est un point énorme, parce que dès que vous commencez un projet de science-fiction en littérature, en cinéma ou en série télévisée, le producteur, il regarde la première ligne. 1000 milliards de vaisseaux apparurent cette année-là. Budget, ah non, ça ne va pas être possible, on va faire un vaisseau si ça ne vous dérange pas. Puis peut-être qu'on va passer à une voiture finalement, c'est pareil de toute façon. Bon, voilà, donc on est tout de suite barré en permanence. Et, bon, c'est très compliqué. Et pour un auteur, c'est extraordinairement frustrant. Donc le roman, au moins, on est entièrement maître de son destin. Donc, et moi, je pense qu'elle a encore de beaux jours devant elle, parce que l'accélération vertigineuse de la technologie. Et l'accélération qui est liée aussi à un désintérêt économique de plus en plus pressant, et puis aussi à des menaces de plus en plus pressantes, hein, que sont le réchauffement climatique, que sont le rapport à notre planète, ça laisse beaucoup de place pour la réflexion et pour la science-fiction. Donc c'est là-dessus qu'on s'installe, et il y a vraiment un avenir très très grand, parce que la réflexion, on en manque de plus en plus, et cet espace-là, il faut absolument l'occuper de plus en plus.
Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à Pierre ou à mes deux autres compagnons? Oui, ici.
C'était à la fois une question et pour corroborer. Déjà, bonjour à tout le monde. Je pense que c'était pour relancer la question sur les Français ont-ils un problème avec l'imaginaire, et peut-être que les Français ont peut-être plutôt un problème avec les catégories. On parlait beaucoup de rayonnage et de justement couverture, littérature blanche, littérature de SF. Est-ce vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans la sphère universitaire ou même en bibliothèque? Enfin, je les connais plus personnellement, donc c'est pour ça que c'était pour rebondir sur ça. Comment répondre à ce problème de... Est-ce que ce ne serait pas un problème de catégorie, d'étiquette? Qu'est-ce que la science-fiction? Et du coup, comment... vendre au-delà de l'étiquette je vends de la science-fiction ou je ne veux pas vendre de la science-fiction pour certains, pour sortir de ça. Merci.
Mais est-ce que je vais répondre par une question? Est-ce qu'on a besoin de sortir de cette catégorisation? Les façons de consommer, elles changent, vous en percevez tous aujourd'hui. Et ce qu'on ne peut pas faire en librairie, par exemple, Amazon le fait très bien, c'est-à-dire qu'un livre peut être multicatégorisé chez Amazon. Vous allez avoir un livre de Pierre Baudal qui va apparaître en science-fiction, qui va apparaître en thriller, qui va apparaître... Alors votre libraire ne le fera pas, il ne va pas le mettre dans trois rayons différents. Donc déjà, je pense que les gens sont de plus en plus enclins à transcender ces catégories. Ils vont faire de plus en plus confiance à des algorithmes ou des choses comme ça. Et là où ça devient difficile pour la librairie et pour le libraire, c'est de suivre ces changements de catégories. Moi, je ne crois pas que la France ait un problème avec l'imaginaire. Hein, personnellement, je ne pense pas. Je pense ou avec la science-fiction ou quoi que ce soit. Je pense que il y a un certain nombre d'auteurs ou d'éditeurs qui ont un problème avec le fait d'assumer ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils veulent planquer les monstres sous le tapis, ils veulent planquer les vaisseaux spatiaux sous le tapis, ils veulent tout planquer Moi, j'ai quand même l'impression qu'il faut faire le contraire. Faut assumer ce qu'on aime. On aime les vaisseaux spatiaux, on aime Blade Runner. C'est pas parce qu'on aime Blade Runner qu'on peut pas lire Gilles Deleuze, ou qu'on peut pas lire Nietzsche, ou qu'on peut pas lire Amélie Nothomb. J'en sais rien. Je pense qu'on veut opposer des choses qu'il n'y a pas à opposer. On a tous des profils de consommateurs ou de lecteurs qui sont très divers. Et pourquoi on ne pourrait pas lire Titeuf et en même temps lire Damasio? C'est vrai qu'en librairie, il y a malheureusement, et on ne peut pas faire autrement, enfin, si quelqu'un trouve une autre façon de le faire, super, mais aujourd'hui, il y a un rayon de science-fiction, et la plupart des livres que vous allez acheter en bas aux Utopiales, ce sont des livres que, dans une librairie normale, vous allez trouver dans le rayon de science-fiction, et pas ailleurs, ou alors peut-être pour certains dans le rayon scientifique. Et ça, c'est le problème du physique. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus dans le numérique, on est de plus en plus dans acheter des e-books, on est de plus en plus dans acheter du digital, et on a de plus en plus de jeunes qui sont des digital natifs, comme on dit, qui sont de plus en plus dans des consommations qui sont différentes, des gens qui regardent des films sur les téléphones portables. Moi, si on m'avait dit il y a 20 ans que les gens allaient regarder des films sur les téléphones portables, genre le dernier James Bond, j'aurais dit foutez ma gueule. Regardez le dernier James Bond sur le téléphone portable, mais quelle idée, quoi. Mais voilà, donc dans le métro, on voit des gens qui regardent leur série sur un téléphone portable, etc. Donc tout ça, ça change. Et je pense que l'étiquette, pour moi, est moins importante que la culture. C'est est-ce qu'on est capable d'assumer notre culture et aussi être capable d'expliquer que notre culture, elle ne se réduit pas aux jeux de rôle et elle ne se réduit pas à des trucs pour adolescents, qu'il y a des livres qui sont extrêmement ambitieux en science-fiction, qu'il y a des livres qui sont extrêmement ambitieux d'un point de vue philosophique, politique, géopolitique. Et la science-fiction, c'est quand même, pour moi, de toute littérature, la plus philosophique de toutes. Mais vraiment, hein, c'est pour moi indéniable. Les histoires de couples qui ne savent pas s'ils vont avoir ou non un enfant, la dimension philosophique m'échappe. Par contre, faites un livre sur demain, qu'est-ce qu'on fait avec le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on fait avec les migrants, qu'est-ce qu'on fait avec l'Afrique, qu'est-ce qu'on fait avec l'Inde, qui va devenir plus peuplée que la Chine, et qui va vouloir consommer comme tous les pays en voie de développement, et donc ils vont avoir besoin de terres rares, ils vont avoir besoin de métaux, ils vont avoir besoin de gasoil, ils vont avoir besoin de tas de trucs. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas les empêcher de consommer, ces gens-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quel va être le basculement? Comment on va affronter ce basculement? Ça, c'est vachement plus intéressant de « je m'engage pas, est-ce que je vais faire un enfant, peut-être, je ne sais pas ». Enfin bon, voilà, bon, donc c'est vraiment la littérature philosophique, par excellence.
D'ailleurs, un jour, j'avais été invité à une émission de France Culture. Mauvais genre, rassurez-vous. Et il y avait Michel Cassenave, un historien de la religion, et puis il m'avait accueilli en disant « Je suis content de recevoir un auteur de science-fiction parce que c'est une des seules littératures philosophiques modernes. » Et ça, c'était un beau compliment de sa part, je pense.
Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Eh bien... Ah. Bon, une dernière? C'est fini? Bon, on nous coupe, donc je suis désolée. Non, merci beaucoup à tous d'être venus.
Merci.
N'hésitez pas à aller faire un tour à la librairie. Merci Pierre Bordage, merci.